et dans le secteur de Toulouse. Il fera donc chaud, très chaud, pour la fête de la musique en France ce 21 juin.
Et il fait très chaud aussi aux États-Unis où se déroule le mondial des clubs.
Et les footballeurs souffrent, c'est peut-être...
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Le livre que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui est le seul roman écrit par Mary-Ann Scheffer, une Américaine née en 1934, qui fut successivement éditrice, bibliothécaire, puis libraire. Le livre porte un titre bien étrange, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Roman que Mary-Ann a achevé avec l'aide de sa nièce Annie Barrows quand sa santé est devenue défaillante. L'auteur est en effet décédé en février 2008, sachant toutefois que le livre allait être publié et traduit dans de nombreux pays quelques mois plus tard, et notamment en France par Nil Éditions. C'est en 1976 que Mary-Ann Scheffer découvre l'île de Guernesey. Elle s'en souvient pour écrire un roman épistolaire qui mêle la vie sentimentale d'une jeune femme de lettres anglaise, Juliette Ashton, et un regard documentaire sur Guernesey, seul territoire européen dépendant de la couronne britannique qui a été occupé par l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. La correspondance commence en janvier 1946, au moment où l'héroïne du roman entre en contact avec les habitants de l'île et reçoit peu à peu des lettres témoignages sur leur vie quotidienne sous l'occupation. Donnons de suite la parole à cette Juliette Ashton qui, au lendemain de la guerre, apprend à son éditeur qu'elle est lasse d'être cantonnée à des chroniques humoristiques destinées à soutenir le courage des citoyens britanniques par ces temps difficiles.
« 8 janvier 1946. Juliette Ashton à M. Sidney Stark, éditeur. Cher Sidney, Suzanne Scott est une perle. Nous avons vendu plus de 40 exemplaires du livre, ce qui est plutôt réjouissant. Mais le plus merveilleux, de mon point de vue, a été la partie ravitaillement. Suzanne nous a déniché des tickets de rationnement pour du sucre glace et de vrais œufs afin de nous confectionner des meringues. Si tous ces déjeuners littéraires atteignent ces sommets, je suis partante pour une tournée dans tout le pays. Penses-tu qu'un somptueux bonus l'encouragerait à nous trouver du beurre? Essayons, tu n'auras qu'à déduire la somme de mes droits d'auteur. À présent, les mauvaises nouvelles. Tu m'as demandé si mon nouveau livre progressait. Non, Sidney, il ne progresse pas. Je n'ai plus envie d'écrire ce livre. Je n'ai plus ni la tête ni le cœur à l'écrire. Aussi cher que m'a été et m'est encore Izzy Bickerstaff, je ne veux plus rien écrire sous ce nom. Je ne veux plus être considérée comme une journaliste humoriste. Je suis consciente que faire rire ou au moins glousser les lecteurs en temps de guerre n'était pas un mince exploit. Mais c'est terminé. J'ai le sentiment d'avoir perdu le sens des proportions ces derniers temps, et Dieu sait qu'on ne peut rien écrire de drôle sans cela. En attendant, je suis très heureuse que Stevens et Stark gagnent de l'argent avec Izzy Bickerstaff s'en va en guerre. Le fiasco de ma biographie d'Anne Brontë me pèse moins sur la conscience. Merci pour tout, affectueusement, Juliette.
De Dorsey Adams, Guernesey, île anglo-normande, à Juliette. 12 janvier. Chère Miss Ashton, je m'appelle Dorsey Adams et j'habite une ferme de la paroisse de Saint-Martin sur l'île de Guernesey. Je connais votre existence parce que je possède un vieux livre vous ayant jadis appartenu. Les essais d'Elia, morceau choisi, d'un auteur dont le véritable nom était Charles Lamb. Votre nom et votre adresse s'étaient inscrits au verso de la couverture. Je n'irai pas par quatre chemins. J'adore Charles Lamb. Aussi, en lisant ces morceaux choisis, je me suis demandé s'il existait une œuvre plus vaste dont auraient été tirés ces extraits. Je veux lire ces autres textes. Seulement, bien que les Allemands aient quitté l'île depuis longtemps, il ne reste plus aucune librairie à Guernesey. J'aimerais solliciter votre gentillesse. Pourriez-vous m'envoyer le nom et l'adresse d'une librairie à Londres ? Je voudrais commander d'autres ouvrages de Charles Lamb par la poste. Je voudrais aussi savoir si quelqu'un a déjà écrit l'histoire de sa vie. Et si oui, essayez de m'en procurer un exemplaire. Pour brillant et spirituel qu'il était, M. Lamb a dû traverser des moments de profonde tristesse au cours de son existence. Charles Lamb m'a fait rire pendant l'occupation, surtout son passage sur le cochon rôti. Le cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey est né à cause d'un cochon rôti que nous avions dû cacher aux soldats allemands, raison pour laquelle je me sens une affinité particulière avec M. Lamb. Je suis désolé de vous importuner, mais je le serai encore plus si je n'arrive pas à en apprendre davantage sur cet homme dont les écrits ont fait de moi son ami. En espérant ne pas vous causer d'embarras, Dorsey Adams.
De Juliette à Dorsey, 15 janvier. Cher Monsieur Adams, je n'habite plus la rue de Oakley, mais je suis très heureuse d'avoir votre lettre entre les mains et de savoir mon livre entre les vôtres. Cela a été un déchirement que de me séparer des essais d'Elia, morceau choisi. J'en possédais deux exemplaires et je manquais de place sur mes étagères. Néanmoins, je me suis fait l'effet d'une traîtresse en le vendant. Vous avez apaisé ma conscience. Je me demande comment cet ouvrage est arrivé à Guernesey. Peut-être les livres possèdent-ils un instinct de préservation secret qui les guide jusqu'à leur lecteur idéal, comme il serait délicieux que ce soit le cas. Puisqu'il n'est rien que je ne fasse plus volontiers qu'écumer les librairies, je me suis rendue chez Hastings et Sons dès réception de votre lettre. Je fréquente cette librairie depuis des années et j'y ai toujours trouvé le livre que je cherchais et trois autres dont j'avais envie à mon insu. J'ai expliqué à M. Hastings que vous aimeriez qu'il vous trouve un exemplaire des essais d'Elia, autre morceau choisi en bon état, et non une édition rare. Il vous l'enverra directement avec la facture, et a été ravi d'apprendre que vous êtes, vous aussi, un amoureux de Charles Lamb. Selon lui, la meilleure biographie de Lamb a été écrite par E.V. Lucas. Il va essayer de vous la dégoter, ce qui risque de prendre un certain temps. En attendant, acceptez-vous ce petit présent de ma part ? Il s'agit de sa correspondance. Je pense qu'elle vous en apprendra plus sur lui qu'aucune biographie. E.V. Lucas me paraît trop sérieux pour qu'il cite mon passage préféré de Limbe. Bzz, bzz, bzz. Boum, boum, boum. Fuit, fuit, fuit. Plonk, plonk, plonk. Ding, ding, ding. Ploc. Je finirai certainement condamnée. J'ai bu à l'excès 2 jours durant. Je retrouve mon sens moral au dernier stade de la tuberculose et ma foi vacille. Vous le trouverez dans Correspondance, page 244. Si vous avez le temps de correspondre avec moi, pourriez-vous répondre à quelques questions ? 3 en fait. Pourquoi avoir dû tenir secret un dîner de cochon rôti ? Comment un cochon a-t-il pu vous inciter à créer un cercle littéraire ? Et surtout, qu'est-ce qu'une tourte aux épluchures de patates ? Et pourquoi est-elle mentionnée dans le nom de votre cercle ? Cordialement, Juliette Ashton.
De Dossé à Juliette, 31 janvier. Chère Miss Ashton, votre livre est arrivé hier. Vous êtes très gentille et je vous remercie de tout cœur. Je serai ravi de correspondre avec vous. Je répondrai à vos questions du mieux que je peux. Même si beaucoup sont de meilleurs conteurs que moi, je vais vous raconter notre dîner de porc rôti. Je possède un cottage et une ferme héritée de mon père. Avant la guerre, j'élevais des cochons. Et je cultivais des légumes que je vendais au marché de Saint-Pétersbourg. Et je faisais pousser des fleurs pour celui de Covent Garden. Il m'arrivait également souvent de travailler comme charpentier et couvreur. Il ne reste plus guère de cochons à présent. Les Allemands les ont pris pour nourrir leurs soldats sur le continent. Ils m'ont ordonné de cultiver des patates à la place. Nous devions planter ce qu'ils nous ordonnaient, et rien d'autre. Au début, avant que je n'en vienne à connaître les Allemands, je pensais pouvoir dissimuler quelques cochons, pour mon usage personnel. Mais l'officier agricole les a dénichés et emportés. C'était un coup dur. Pourtant, je me suis dit que je m'en sortirais. Les patates et les navets poussaient à foison, et nous avions encore de la farine à l'époque. C'est étrange comme l'esprit peut se focaliser sur la nourriture. Au bout de 6 mois de navets, agrémentés d'un bout de cartilage de temps à autre, j'avais du mal à détourner mes pensées de l'idée d'un bon repas nourrissant. Un après-midi, ma voisine, Madame Maugerie, m'a envoyé une note. « Venez vite et apportez un couteau de boucher, » disait-elle. J'ai tenté de museler mes folles espérances, mais je suis sorti aussitôt et je me suis rendu au manoir d'un pas alerte. C'était incroyable, mais vrai. Elle avait un cochon et elle me conviait à me joindre au festin qu'elle donnait à ses amis. Enfant, je ne parlais guère en raison d'un fort bégaiement et je n'étais pas habitué au grand dîner. En fait, celui de Madame Maugerie était mon tout premier. L'idée du cochon rôti m'a poussé à accepter l'invitation, même si j'aurais préféré prendre mon morceau de viande et l'emporter chez moi pour le manger dans mon coin. C'est une chance que mon vœu n'ait pas été exaucé, car c'est ce soir-là que s'est tenue la première réunion du cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey. Même si nous l'ignorions sur le moment. Le repas a été un rare délice, et la compagnie s'est révélée plus délicieuse encore. De boucher en conversation, nous avions oublié les horloges et le couvre-feu. Quand Amélia, Madame Maugerie, a entendu le carillon de 9 heures, nous l'avions manqué 1 heure. Ma foi, la bonne chère avait enhardi nos cœurs. Et quand Elisabeth McKenna a suggéré qu'il valait mieux regagner nos pénates que de traîner toute la nuit dans le petit salon d'Amélia, nous lui avons donné raison. Cependant, Manquer le couvre-feu était un acte répréhensible. J'avais entendu parler de personnes envoyées dans des camps pour cela. Et dissimuler un cochon était un crime plus grave encore. Aussi avons-nous décidé de couper à travers champs le plus silencieusement possible. Tout se serait bien passé sans John Booker. Il avait davantage bu que mangé au dîner, et nous atteignions la route quand il s'est oublié et a entonné une chanson. Je l'ai attrapé pour le faire taire, mais il était trop tard. 6 officiers de patrouille sont soudain sortis des arbres, leurs lugaires pointées, et ont crié « Que faites-vous dehors après le couvre-feu ? Où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? » Comment réagir ? Une chose était sûre, si je me mettais à courir, ils tireraient. J'avais la bouche sèche comme du papier de verre, et l'esprit vide. Alors je me suis accroché à Booker et j'ai prié. C'est à cet instant qu'Elisabeth s'est avancée. Elisabeth n'est pas grande, si bien que leur pistolet était pointé sur ses yeux. Mais elle n'a pas scié. Elle s'est comportée comme si elle ne les voyait pas. Elle s'est approchée de l'officier supérieur et lui a débité, sans reprendre son souffle, un tissu de mensonges comme vous n'en avez jamais entendu. Nous étions vraiment désolés de n'avoir pas respecté le couvre-feu. Nous assistions à une réunion du cercle littéraire de Guernesey et la discussion du soir sur Elisabeth et son jardin allemand était si captivante que nous en avions tous perdu la notion du temps. Un livre merveilleux, l'avait-il lu ? Aucun de nous n'eut la présence d'esprit de corroborer ses dires. Cependant, l'officier n'a pu s'empêcher de lui rendre son sourire. C'est l'effet que produit Elisabeth sur les gens. Il a noté nos noms et nous a ordonné très poliment de nous signaler au commandant le lendemain matin. Sur quoi, il s'est incliné en nous souhaitant bonne nuit. Elisabeth lui a rendu son salut le plus gracieusement possible et nous nous sommes dispersés, en essayant de ne pas détaler comme des lapins. Même en traînant Booker, je suis arrivé à la maison en un rien de temps. À présent, vous connaissez l'histoire de notre dîner de cochon rôti.
Alors que Juliette entame avec enthousiasme une correspondance assidue avec Daoset et Madame Amelia Maugerie, également membre du cercle littéraire de Guernesey, le Times lui commande un article pour son supplément littéraire. Elle décide avec ses correspondants de rédiger cet article en s'appuyant sur leur expérience de l'occupation et récolte dès lors de nombreuses lettres témoignages.
De Ibn Ramsey à Juliette, 28 février. Cher Miss Ashton, Madame Maugerie dit que vous voudriez recevoir des lettres sur nos lectures pendant l'occupation. Je comptais ne plus parler, ni me souvenir si possible, de ces années, mais Amelia affirme que vous êtes une personne de confiance et je la crois. Sans compter que vous avez eu la gentillesse d'envoyer un livre à mon ami Dozy, qui n'est pour vous qu'un inconnu. J'ai donc décidé de vous écrire en espérant que cela vous aiderait pour votre article. Mieux vaut commencer par préciser que nous n'étions pas un vrai cercle littéraire au début. En dehors d'Elisabeth, de Madame Maugerie et de Booker, peut-être, presque aucun d'entre nous n'avait remis la main sur un livre depuis l'école. Quand nous les choisissions sur les étagères de Madame Maugerie, nous avions peur d'abîmer du si beau papier. Je n'avais aucun goût pour ce genre d'activité à l'époque. Je ne me serais jamais résolu à ouvrir mon premier livre si je n'avais eu à l'esprit l'image du commandant et de la prison. Il s'intitulait Shakespeare, morceau choisi. Plus tard, j'en suis venu à comprendre que messieurs Dickens et Wordsworth pensaient à des hommes comme moi en écrivant. J'ai le sentiment que moins Shakespeare en dit, plus c'est beau. Savez-vous quelle est sa phrase que j'admire le plus ? Le jour radieux décline et nous entrons dans les ténèbres. J'aurais aimé connaître ces mots le jour où j'ai regardé les avions allemands atterrir les uns après les autres et leurs navires déverser des soldats jusque dans notre port. Je n'arrêtais pas de me répéter « Maudit soit-il, maudit soit-il ». Je crois que penser au « jour radieux décline et nous entrons dans les ténèbres » m'aurait un peu consolé. Je me serais senti mieux préparé pour affronter la situation, au lieu de quoi mon cœur s'est liquéfié. Ils sont arrivés un dimanche, le 30 juin 1940. Ils nous avaient bombardés 2 jours auparavant. Ils ont prétendu que c'était une erreur, qu'ils avaient pris nos camions de tomates pour des camions de l'armée. Comment est-ce possible? Cela dépasse l'entendement. Leurs bombes ont tué une 30aine d'hommes, de femmes et d'enfants, dont le fils de mon cousin. Il s'est caché sous son camion lorsqu'il a vu les bombes tomber. Le véhicule a explosé et pris feu. Ils ont tué des hommes embarqués sur des canots de sauvetage. Ils ont mitraillé les ambulances de la Croix-Rouge qui emportaient nos blessés. Puis, voyant que personne ne ripostait, ils ont compris que les Britanniques nous avaient laissés sans moyen de nous défendre. 2 jours plus tard, ils ont débarqué tranquillement et nous ont occupés pendant 5 ans. Au début, ils se sont montrés aussi agréables que possible. Ils étaient si fiers d'avoir conquis une petite parcelle de l'Angleterre. Ils s'imaginaient qu'ils n'avaient plus qu'un petit saut à faire pour atterrir à Londres. Quand ils se sont rendus compte de leur bêtise, leur méchanceté naturelle a repris le dessus. Ils avaient des règles pour tout. Faites ci, ne faites pas ça. Mais ils n'arrêtaient pas de changer d'avis. Ils s'efforçaient de paraître amicaux, comme si nous étions des ânes, qu'une carotte suffit à amadouer. Puis, comme nous n'étions pas des ânes, ils redevenaient cruels. Par exemple, ils ne cessaient d'avancer le couvre-feu. 8 heures, puis 7, puis 5, quand ils étaient de méchante humeur. Ce qui nous empêchait de rendre visite à nos amis et même de nous occuper de notre bétail. Au début, nous étions remplis d'espoir. Nous pensions qu'il ne resterait pas plus de 6 mois. Mais les jours passaient et ils étaient toujours là. Les vivres ont commencé à manquer et bientôt le bois de chauffage. Nos jours étaient gris de labeur et nos soirées noires d'ennui. Nous devenions tous maladifs à force de si peu manger et l'idée que ça ne s'arrêterait jamais nous rendait maussades. Nous nous accrochions à nos livres et à nos amis qui nous rappelaient l'autre part de nous. Elisabeth nous lisait souvent un poème. Je ne me le rappelle pas en entier, mais il commençait ainsi. Est-ce une chose si infime que d'avoir vécu la lumière du printemps, d'avoir aimé, d'avoir pensé, d'avoir agi, d'avoir servi de véritables amis? Non, ça ne l'est pas. J'espère que, où qu'elle se trouve, elle l'a en mémoire. À la fin de l'année 44, l'heure du couvre-feu n'avait plus d'importance. De toute façon, nous nous couchions vers 5 heures pour nous réchauffer. On nous avait rationné à 2 bougies par semaine, puis à 1. C'était profondément ennuyeux de rester assis au lit sans lumière pour lire. Après le jour J, les Allemands ont cessé d'envoyer des navires de ravitaillement de France à cause des bombardements alliés. Si bien qu'ils ont fini par être aussi affamés que nous et par tuer les chiens et les chats pour se nourrir. Ils volaient dans nos jardins, déterraient nos patates, mangeant même les plus pourries. 4 soldats sont morts d'avoir dévoré des pleines poignées de ciguë qu'ils avaient prises pour du persil. Les officiers ont alors décrété que tous les soldats surpris en train de nous voler seraient abattus. Un pauvre gars qui s'est fait prendre avec une patate a grimpé dans un arbre pour se cacher. Ils l'ont retrouvé et l'ont fait descendre à coups de fusil. Ça ne les a pas empêchés de continuer à voler pour se nourrir. Je ne leur jette pas la pierre parce que certains des nôtres faisaient pareil. J'imagine que la faim vous pousse à des actes désespérés quand elle vous tenaille chaque matin à votre réveil. Mon petit-fils Élie a été évacué vers l'Angleterre quand il avait 7 ans. Il est de retour à la maison maintenant. Il a 12 ans et il a beaucoup poussé. Mais je ne pardonnerai jamais aux Allemands de m'avoir fait manquer toute une part de son enfance. Je dois aller traire ma vache, mais je vous écrirai encore si vous le désirez. Mes meilleurs vœux de bonne santé. Eben Ramsey.
De Dowsay à Juliette, 12 mars. Chère Juliette, je suis heureux que vous aimiez les lilas blancs. Voici l'histoire du savon de Madame Dillwyn. Nous étions à peu près au milieu de l'occupation et le savon se faisait rare. Nous n'étions autorisés à en avoir qu'un pain par personne et par mois. Il était fabriqué à partir d'une sorte d'argile française et flottait comme un animal inerte dans l'eau. Il ne moussait pas. Vous vous contentiez de le frotter sur vous en espérant que ce serait efficace. Rester propre n'était pas une mince affaire. Nous nous étions habitués à être plus ou moins sales, comme nos vêtements. Nous avions droit à une petite quantité de paillettes de savon pour la vaisselle et la lessive. Une quantité risible.
qui ne moussait pas non plus. Certaines dames en souffraient beaucoup. C'était le cas de Madame Dillouin. Avant la guerre, elle achetait ses robes à Paris. Alors elle s'était usée plus vite que des vêtements ordinaires. Un jour, le cochon de Monsieur Scope est mort de la fièvre de lait. Personne n'ayant osé y toucher, il m'en a offert la carcasse. Ma mère fabriquait du savon à partir de la graisse de porc. Je me suis dit que je pourrais essayer de l'imiter. Ce que j'ai obtenu ressemblait à de l'eau de lessive surgelée et sentait pire encore. Alors j'ai fait fondre le tout et j'ai recommencé. Booker, qui était venu m'aider, m'a suggéré d'ajouter du paprika pour la couleur et de la cannelle pour le parfum. Amelia nous en a procuré et nous avons mélangé tout ça. Quand le pain a suffisamment durci, nous l'avons découpé en cercle à l'aide de l'emporte-pièce d'Amelia. J'ai enveloppé les savons individuellement dans de la toile à fromage. Elisabeth l'a noué avec de la laine rouge et nous les avons offerts à toutes les dames lors de la réunion suivante du cercle. Pendant une semaine ou deux, nous avons eu l'air de gens respectables. En plus de mon travail au port, je passe 2 jours par semaine à la carrière, à présent. Isola, qui m'a trouvé l'air fatigué, m'a confectionné un baume pour apaiser les muscles douloureux. Elle l'appelle les doigts d'ange. Elle fabrique également un sirop pour la toux, qu'elle appelle le souffle du démon. J'espère ne jamais en avoir besoin. Hier, Amelia et Kit ont soupé à la maison. Ensuite, nous avons emporté une couverture sur la plage et nous avons regardé la lune monter dans le ciel. Kit adore ça. Mais elle s'endort toujours avant que la lune ait terminé son parcours. Et je dois la porter jusqu'à la maison d'Amelia. Elle est persuadée que quand elle aura 5 ans, elle pourra rester éveillée toute la nuit. Vous vous y connaissez un peu en enfant ? Moi non. J'apprends, mais je ne suis pas très rapide. Tout était plus facile quand Kit ne parlait pas encore, même si c'est plus amusant maintenant. J'essaie de répondre à ses questions, mais j'ai toujours un train de retard. Elle passe à la question suivante avant que j'aie eu le temps de répondre à la première. J'en sais trop peu à son goût. Je ne sais pas à quoi ressemble une mangouste, par exemple. Je suis content de recevoir vos lettres, mais j'ai souvent l'impression de ne pas avoir grand-chose d'intéressant à vous raconter. Alors, c'est un plaisir de répondre à vos questions rhétoriques. Bien à vous, Dorsey.
De Ibène à Juliette, le 22 avril. Chère Miss Ashton, vous m'avez demandé si tous les enfants avaient été évacués vers l'Angleterre. Non, certains sont restés. Quand Ellie me manquait, je les observais et j'étais content qu'ils soient partis. Les enfants ont vécu des moments difficiles ici. Nous manquions trop de nourriture pour qu'ils grandissent correctement. Je me rappelle avoir soulevé le garçon de Bill Lepel, il avait 12 ans, mais pesait moins lourd qu'un enfant de 7 ans. C'était une chose terrible que d'avoir à décider entre envoyer nos petits vivre parmi des étrangers ou les garder avec nous. Nous n'étions pas certains que les Allemands viendraient, mais le cas échéant, nous ne savions pas comment ils se comporteraient envers nous. D'un autre côté, s'ils envahissaient l'Angleterre, comment feraient nos enfants sans parents à leur côté ? Si vous aviez vu dans quel état nous étions quand les Allemands sont arrivés, en état de choc à mon avis. Dans le fond, nous ne pensions pas qu'ils s'intéressaient à nous. Ils voulaient l'Angleterre, nous ne leur serions d'aucune utilité. Nous pensions que nous assisterions à tout cela en spectateurs, sans jouer le moindre rôle. Et voilà qu'au printemps 40, Hitler a fendu l'Europe comme un couteau chaud ou une motte de beurre. Il a tout renversé sur son passage. Il est allé si vite que toutes les fenêtres de Guernesey étaient secouées par les bombardements qui pleuvaient sur la France. Quand la côte française a été prise, il est devenu clair comme de l'eau de roche que l'Angleterre ne pourrait plus faire partir d'hommes et de navires de là pour nous défendre en cas de besoin. Il fallait qu'elle se prépare à une invasion et qu'elle protège ses propres côtes. Nous nous sommes donc retrouvés livrés à nous-mêmes. Au milieu du mois de juin, quand nous avons compris que les Allemands en avaient après nous, Les États ont téléphoné à Londres pour demander qu'on nous envoie des navires afin d'embarquer nos enfants pour l'Angleterre. Les mettre dans des avions aurait été trop dangereux. Ils risquaient d'être abattus par la Luftwaffe. Londres a répondu favorablement, mais les enfants devaient être prêts à partir sur le champ. Les navires repartiraient sitôt arrivés. Le temps pressait. Nous étions tous fous d'angoisse. Nous avions le sentiment que chaque seconde comptait. Le temps de l'hésitation est vite passé. Les familles n'avaient qu'un seul jour pour prendre une décision dont ils assumeraient les conséquences pendant 5 ans. Les enfants en âge d'être scolarisés et les mamans ayant des bébés sont partis en premier, les 19 et 20 juin. Les États ont donné de l'argent de poche aux petits dont les parents n'avaient pas les moyens de le faire. Les plus petits étaient tout excités à l'idée des bonbons qu'ils pourraient s'acheter avec. Certains croyaient qu'il s'agissait d'une sortie scolaire et qu'ils seraient de retour chez eux avant la tombée de la nuit. C'était mieux ainsi. Les plus grands, comme Ellie, savaient à quoi s'en tenir, eux. De tout ce que j'ai vu le jour du départ, il est une image qui m'y reste gravée dans mon esprit. Deux fillettes vêtues de belles robes roses, avec des jupons et des chaussures vernies, comme si leur mère les avait préparées pour un anniversaire. Elles ont dû avoir si froid pendant la traversée. Les parents devaient déposer leurs enfants dans la cour de l'école. C'est là que nous leur avons dit au revoir. Puis des bus les ont conduits à l'embarcadère. Les navires qui venaient juste de repartir de Dunkerque ont retraversé le Channel pour les emmener. Nous n'avions pas le temps d'organiser un convoi pour les escorter. Nous n'avions pas le temps de réunir suffisamment de canots et de gilets de sauvetage. Ce matin-là, nous nous sommes d'abord arrêtés à l'hôpital pour qu'Ellie dise au revoir à sa mère. Sa mâchoire était si serrée qu'il n'a réussi qu'à hocher la tête. Jane l'a serrée un long moment dans ses bras, puis Elisabeth et moi l'avons emmenée dans la cour de son école. Je l'ai serrée fort contre moi et j'ai dû attendre 5 années avant de le revoir. Elisabeth est restée sur place. Elle s'était portée volontaire pour finir de préparer les enfants. Sur le chemin de l'hôpital, je me suis rappelé une chose qu'Elie m'avait dite un jour. Il avait 5 ans et nous marchions le long de la courbrie pour voir les bateaux de pêche rentrer au port. Il y avait une vieille chaussure en toile au milieu du chemin. Elie l'a contournée sans la quitter des yeux. « Elle est toute seule, cette chaussure, grand-père » a-t-il dit. J'ai répondu « Oui, c'est vrai. » Il a continué à la regarder, puis nous l'avons dépassée. Au bout d'un moment, il a repris « Grand-père, tu sais, ça ne m'arrive jamais à moi. »« Qu'est-ce qui ne t'arrive jamais ?»« De me sentir tout seul, » a-t-il répondu. Bien, j'avais tout de même quelque chose de joyeux à raconter à Jane, et j'ai prié pour que la vie ne demande jamais Ellie. Isola veut vous raconter elle-même ce qu'il s'est passé dans l'école. « Elle a assisté à une scène qui intéressera sûrement l'écrivain que vous êtes, » dit-elle. Elisabeth giflant Adélaïde et la forçant à partir. Isola m'a dit que vous envisagiez de nous rendre visite. Ellie et moi serions heureux de vous accueillir chez nous. Bien à vous, Ibn Ramsey.
De Juliette à Sydney, son éditeur, 3 mai. Cher Sydney, j'ai envie de quitter un peu Londres. J'ai envie d'aller à Guernesey. Tu sais que je me suis beaucoup attachée à mes nouveaux amis et que je suis fascinée par leur quotidien sous l'occupation et depuis le départ des Allemands. Je me suis rendue au comité des réfugiés des îles anglo-normandes et j'ai épluché leurs archives. J'ai lu des rapports de la Croix-Rouge et tout ce que j'ai pu trouver, pas grand-chose, sur les travailleurs de l'organisation Todd. J'ai interrogé des soldats qui ont participé à la libération de Guernesey et les ingénieurs qui ont débarrassé ces plages des milliers de mines posées par les Allemands. J'ai lu tous les rapports gouvernementaux non classés sur l'état de santé des insulaires, leur état psychologique et l'état de leur garde-manger. Cela reste insuffisant. Il me faut des témoignages directs. Or, je n'en trouverai pas dans une bibliothèque. Un exemple. Hier, j'ai lu un article datant de la Libération dans lequel un journaliste se moquait de la réponse d'un insulaire à qui il avait demandé « Quelle a été votre expérience la plus difficile durant l'occupation allemande ?» Pour moi, il n'y avait rien de drôle dans sa réponse. Écoute plutôt. Ils nous ont pris tous nos postes de radio portatifs, vous savez. Si vous vous faisiez prendre avec une radio dissimulée, ils vous envoyaient en prison sur le continent. Certains d'entre nous avaient néanmoins pris le risque et ils avaient entendu dire que les Alliés allaient débarquer en Normandie. Vous imaginez, nous n'étions pas censés le savoir. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire pendant l'occupation, c'était de marcher dans les rues de Saint-Peter-Port le 7 juin sans avoir l'air joyeux, sans rire ni sourire, sans rien faire que je puisse avertir les Allemands que je savais que leur fin était proche. S'ils nous avaient démasqués, ils se seraient défoulés sur l'un de nous. C'était terriblement difficile de faire semblant d'ignorer que le jour J était enfin arrivé. Je veux parler avec des gens comme lui, quoi qu'il en ait sûrement soupé des journalistes et écrivains, en apprendre davantage sur leur guerre à eux. Parce que c'est ce que j'aurais aimé lire à la place des statistiques sur les réserves de grains. Je ne sais pas encore la forme que prendra ce livre, ni même si je suis capable de l'écrire. Il faut que j'aille à Saint-Peter-Port pour le découvrir. Ai-je ta bénédiction ? Je t'embrasse, Juliette. De Juliette à son éditeur Sydney, de nombreuses lettres et 4 mois plus tard, 17 septembre. Cher Sydney, je suis affreusement désolée de t'obliger à retraverser la Manche immédiatement, mais j'ai besoin de ta présence à mon mariage. J'ai cueilli le jour et la nuit aussi. Peux-tu venir me conduire à l'hôtel dans le jardin d'Amélia samedi ? Eben sera le témoin du marié et Isola, ma demoiselle d'honneur. Elle se confectionne une robe pour l'occasion. Kit jettera des pétales de rose. Dosset sera le marié. Tu es surpris ? Probablement pas. Moi, oui. Je vais de surprise en surprise ces derniers jours. En fait, à bien y réfléchir, je n'ai été fiancée qu'un seul jour, mais j'ai l'impression que toute ma vie s'est mise en mouvement au cours des dernières 24 heures. Tu imagines ? Nous aurions pu nous aimer en silence éternellement. Cette obsession de la dignité peut ruiner ta vie si tu n'y prends pas garde. Cela paraît-il inconvenant de se marier si vite ? C'est juste que je ne peux pas attendre. Je veux commencer tout de suite. Toute ma vie, j'ai cru que l'histoire se terminait quand le héros et l'héroïne annonçaient leur mariage. Et après tout, ce qui est bien pour Jane Austen devrait suffire à tout le monde. Mais c'est faux. L'histoire est sur le point de commencer et chaque jour sera un nouvel élément de l'intrigue. Peut-être mon prochain livre traitera-t-il d'un couple marié fascinant et de tout ce qu'ils apprennent l'un de l'autre au fil des années. N'es-tu pas impressionné par les vertus de mes fiançailles sur ma plume ? Dosset rentre tout juste de la grande maison et réclame mon attention immédiate. Sa timidité légendaire a fondu comme neige au soleil. Je crois qu'il s'agissait juste d'une ruse pour m'attirer dans ses bras. Affectueusement, Juliette. P.S. J'ai croisé Adélaïde Addison à Saint-Peter-Port aujourd'hui. En guise de félicitations, elle m'a lancé. J'ai entendu dire que vous et cet éleveur de porc alliez régulariser votre situation. Le Seigneur soit loué.
Vous venez d'entendre des extraits du livre de Marie-Anne Schaeffer, assistée d'Annie Barrows, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, publié en France en 2008 par Nil Éditions. Les extraits ont été lus par Françoise, Yvan, Marie-Noël et Paul.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5.
Rendez-vous les 27, 28 et 29 juin
pour le festival Thomas Ranch à 20 minutes d'Angers. Un programme dépaysant aux allures de western. Profitez de 3 jours de concert, essayez-vous à l'équitation western ou grimpez à bord de bolides 100% US. Poussez les portes du ranch et venez vivre le rêve américain
les 27, 28 et 29 juin
à continuer. Plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net.
Thank you.